Chapitre 30. 1960.
Le train entre en gare, à Lyon. Eugénie de Sénéchal en descend, la main de Jean dans la sienne. Elle est suivie par Georgette, Daniel dans les bras. Devant la foule qui l'entoure, Georgette roule des yeux, deux billes affolées. Décidément, Jean ne fait rien comme les autres. Elle serait bien mieux au château à frotter les cuivres. Georgette n'a jamais pris le train, jamais vu d'autres villes que Guignon, Digoin et Mont-Solémines, à une vingtaine de kilomètres du village où elle est née. La destination la plus lointaine qu'elle connaisse. Il monte dans un taxi et se dirige vers le Conservatoire supérieur de musique. Silencieux, Jean répète dans sa tête. Il doit jouer un nocturne de Chopin devant le professeur qui le préparera peut-être au concours du conservatoire lorsqu'il aura 14 ans. Un professeur chez qui il vivra en pension, à Lyon. C'est un ami de la marquise.
« Tu auras une partition à déchiffrer en quelques minutes avant de la jouer devant lui », a expliqué Blaise.
Cela fait des semaines qu'il travaille son solfège. Chez les Sénéchal, et le soir, dans sa chambre, sur un clavier que Blaise lui a dessiné sur un morceau de carton pour la souplesse de ses doigts. Eugénie de Sénéchal a demandé à Georgette de mentir.
« Ne dites pas au marquis que Jean passe une audition. S'il vous pose des questions en rentrant, vous répondez que vous m'avez accompagné chez le médecin. Aujourd'hui, Jean va être évalué. »
« Une audition? Qu'est-ce que c'est ?»
Georgette exècre l'idée de mentir au patron. Le taxi longe le Rhône. Georgette regarde les passants s'agiter dans tous les sens, bien habillés, les gens de la ville. Le parfum de Madame de Sénéchal est entêtant. Daniel pleurniche. Sa mère finit par la pincer, doucement.
« Tiens-toi propre, me fais pas honte !»«
La honte, son fils lui en fait assez comme ça. »
Elle l'observe du coin de l'œil.
Il se tient droit comme un prince.
Mais d'où donc il croit sortir?
Le Jean est pourtant point né avec la cuillère en argent dans la bouche. Au fond, il n'est attaché qu'à Colette, qu'il prend pour sa mère. L'aînée est la première à lui avoir mis des idées de cinglé dans la tête.
Oui, c'est à cause de Colette tout ça.
Le monde conspire contre elle quand elle voudrait être tranquille avec ses malheurs de veuve. Le soir, elle prie la Sainte Vierge pour que le Jean n'ait pas d'idées mauvaises dans la tête. Comme le Lulu, un cabot qui ne reniflait que le cul des mâles. Les chiens avaient beau se montrer la queue en l'air devant lui, il chassait que les mâles. Une déviance, qu'il appelle ça le marquis, quand il cause de son grand dadais de fils. Elle l'a entendu dire ça à sa femme, qui pleurait dans un mouchoir brodé à ses initiales. Une déviance. Elle réprime une nausée à cette pensée. Son pauvre Robin avait fini par abattre le bâtard. Ça vaut rien, pas même capable de faire des chiots. Ils avaient enterré le cadavre profond, avec de la chaux dessus, et prétendu que Lulu s'était sauvée. Colette l'avait cherché partout, braillant son nom dans les prés et toute la forêt. Jean, tout petit, avait pleuré.
Un mouflet que chiale dès qu'une bestiole crève et que sa sœur passe la porte, ça augure rien de bon, disait le Robin.
Le taxi se gare devant un grand bâtiment. Ils pénètrent tous les quatre à l'intérieur, et là, c'est le pompon. Des pièces trois fois plus grandes que celles du château. Des peintures colossales au mur. Georgette inspecte la poussière sur les meubles. Des formations professionnelles. Madame de Sénéchal décline son identité, ainsi que celle de Jean. Elle dit à propos de Georgette et Daniel: « Elle nous accompagne. »«
C'est quand même moi la mère du ch'ti !»
s'offusque Georgette en silence. Ils montent trois étages, des marches en marbre.
« Doit pas être facile de nettoyer tout ça. »
Elle remarque des traces de saleté et d'usure sur les lustres et ne peut s'empêcher de sourire. Jamais cela n'arriverait au château. Le directeur de l'établissement s'incline face à la marquise, lui demande comment elle se porte. Observe Jean. Elle met sa main sur la tête de Daniel, comme s'il tapotait un petit bestiau. Il serre la main de Georgette quand la marquise lui annonce « La mère de Jean ». Et voilà que la honte s'empare à nouveau d'elle, lui monte au visage, elle rougit. Que fait-elle ici? Cet homme qui la dévisage, que va-t-il penser de son allure, de ses mains de bonne, de sa tenue? La marquise a prêté d'anciens vêtements de Blaise à Jean pour l'occasion. On dirait qu'il est le fils sénéchal. Il se tient bien droit, tranquille, comme s'il avait poussé ici, entre ses murs. Le directeur lui demande de le suivre. Il va lui présenter Monsieur Lévitan, qui sera peut-être son futur professeur de piano. Il va commencer par t'écouter et te questionner. J'ai vu ton dossier scolaire. Il va falloir améliorer quelques matières si un jour tu présentes le conservatoire. Le directeur se retourne vers Georgette et la marquise. Je vous l'enlève. Vous pouvez attendre dans la pièce attenante, première porte à gauche. On va vous apporter des boissons chaudes. Georgette suit Madame, Daniel endormi dans ses bras. Elles prennent place sur une banquette, l'une près de l'autre. C'est la troisième fois qu'elles sont assises côte à côte dans la même journée. Train, taxi, conservatoire. Alors que jusqu'ici, ce n'était jamais arrivé. Si le Robin voyait ça, il serait en colère. Il disait toujours « Chacun doit rester à sa place ». Tout à coup, Georgette se raidit. Elle entend le piano. Maudit piano. Maudite Colette. Instrument de malheur. Des histoires à dormir debout. La marquise, elle, sourit de toutes ses belles dents. Elle ouvre les mains. Elle fait courir ses doigts sur sa jupe. Elle semble jouer en même temps que Jean. Le diamant à son annulaire scintille comme un soleil. Est-ce la musique qui lui fait cet effet-là? Daniel s'agite soudain comme une furie et se met à hurler. Les doigts de la marquise s'immobilisent aussitôt et son visage s'assombrit. La gêne vient de passer dans l'autre camp. Georgette se lève aussi vite qu'un diablotin jaillit de sa boîte, emprunte le couloir principal et dévale les trois étages. Pourquoi la marquise l'a-t-elle emmenée? Elle aurait pu venir seule avec Jean. Quelle idée! Elle se retrouve sur le trottoir comme une mendiante, la petite hurlant dans ses bras. On la regarde en coin, elle et sa mioche. Mais curieusement, dès qu'elle se tient loin de son fils, la honte se délite. Avant de reprendre le train, ils vont se restaurer, comme dit la marquise, enjouée. Elle a parlé au futur professeur de Jean, un homme délicieux qui est très enthousiaste quant à ses capacités. En revanche, il ne faut pas tarder. Le plus tôt sera le mieux pour commencer. Qu'en pensez-vous, Georgette? Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je m'occuperai de tout. Dieu, que Georgette est incommodée de déjeuner à la même table que madame. Comment va-t-elle s'en sortir? Maudit piano. Maudit garçon. Son seul garçon. Eux qui s'étaient réjouis à la naissance du Jean. Un fils pour reprendre l'exploitation. Des bras forts pour soulager le quotidien. Elle sent les larmes lui monter aux yeux. Et à elle, combien que ça va lui rapporter de perdre son fils? Si Robin les voyait tous les quatre, attablés les uns à côté des autres, elle voudrait disparaître sous la table et mettre une taloche à Jean, qui fait le fier. Pourtant, il n'a presque pas ouvert la bouche depuis qu'il est sorti du conservatoire. Mais son regard en dit long. Il a déjà changé. La marquise le gronde gentiment. Tu as entendu ce que ton futur professeur a dit? Il faut que tes notes s'améliorent en mathématiques. Blaise va te donner un coup de main pour remonter ta moyenne. Georgette, elle, ne lui a jamais dit qu'il fallait bien travailler à l'école, puisque dans la vie, ce qui compte, c'est d'apprendre un vrai métier. Peu importe qu'on soit fort ou pas en mathématiques. Ils reprennent le train. Quel soulagement! Cette longue journée va enfin prendre fin. Georgette s'assoupit. Daniel est sage. Jean regarde les nuages, en compagnie de madame, et invente des formes d'animaux avec elle. En arrivant, La marquise donne à Georgette sa soirée. Elle n'a pas faim et monsieur dîne en ville avec des amis. Demain, Georgette racontera tout à monsieur de Sénéchal. Lyon, le piano, le professeur, le conservatoire. Il faut que la honte change de camp. Il mange la soupe autour de la table. Daniel est sur les genoux de sa mère. Georgette adresse la parole à son fils pour la première fois de la journée en trempant un morceau de pain dans son bol. Toutes ses émotions lui ont donné faim.
Qu'est-ce donc qu'ils t'ont dit, ces gens ?
Que le matin, j'aurai école normale, et l'après-midi, piano et solfège. J'aurai une chambre chez eux. Mon professeur s'appelle David Lévitan. Il est marié.
Georgette ne peut réprimer une grimace. Drôle de nom, Lévitan.
Et combien de temps que ça dure ?
Longtemps. Jusqu'à ce que je sois grand. Jusqu'à ce que je passe le conservatoire national.
Tu leur as dit que j'étais ta mère ?
Oui.
Qu'est-ce que t'as dit ?
Que mon père est mort et que ma mère travaille dans un château. Et que Colette répare les chaussures.
Mais où que ça mène, ces histoires-là ? Comment tu gagneras ton argent ?
Jean se gratte le haut de la tête. C'est une manie qu'il a depuis tout petit, comme si ses pensées le démangeaient.
En jouant dans un orchestre qui donne des concerts.
Pourquoi donner ? C'est pas payé ?
Si.
En réalité, il n'en a aucune idée. Il ne s'est jamais posé la question. Il joue du piano comme il respire.
T'as pas l'air sûr ?
Si.
Mais qui y a dans ces orchestres ?
Des musiciens.
Des filles ou des gars ?
Poursuit-elle, méfiante.
Les deux, je crois.
Et comment que tu te feras embaucher dans ces orchestres ?
Il hausse les épaules, ne connaissant pas la réponse.
Et où c'est que tu habiteras ?
Chez les Lévitan, à Lyon.
Et quand ce sera fini, tout ce cirque ? Où c'est que tu habiteras ? C'est pas ton piano que va te servir de toi. Te crois que moi j'ai les moyens ?
Jean semble perdu. De l'instille le doute en lui. Les yeux de sa mère disent le contraire de ceux de Colette, de Blaise et de la marquise. Des petits yeux méfiants et peureux.
T'as 10 ans et je suis encore ta mère. Moi, ça me dit rien, toutes ces histoires. Demain, je parlerai au marquis. Je dirai que la marquise, elle fait ça dans son dos.
Mais si tu dis ça, je pourrai plus jouer sur le piano,
répond-il au bord des larmes.
Arrête donc de chouiner. Un gars, ça chouine pas.
Jean est désemparé. Il a peur de monsieur. Il frôle les murs du château en baissant la tête pour ne jamais croiser son regard. S'il sait, il est perdu.
Je voudrais Colette.
Il prononce cette phrase à voix haute, comme une prière.
Elle viendra dimanche, comme tous les dimanches,
tranche Georgette en épluchant une pomme.
T'es méchante.
Pour des pauvres comme nous, la vie c'est pas jouer, la vie c'est travailler. Va donc te coucher.
Mais je fais que travailler mon solfège.
Va te coucher, si j'y dis.
Jean se lève et se dirige vers sa chambre. Comme d'habitude, Daniel dormira dans le lit de sa mère. Il retire les vêtements que la marquise lui a prêtés, comme s'il retirait une peau qui n'était pas la sienne. Demain, il faudra les rendre. Pauvre. Sa mère n'a que ce mot à la bouche, comme si c'était une malédiction. À chaque fois qu'elle le prononce, Jean a le sentiment qu'elle appuie de toutes ses forces sur sa tête pour qu'il se noie. Pourtant, ils dorment au chaud et mangent à leur faim. Ils ne manquent de rien. Mais il voit bien que Colette tend des enveloppes de billets à sa mère, qui les cache dans sa chambre. La vie d'avant semblait plus dure, mais depuis que sa mère est au service des sénéchals, rien ne lui paraît misérable au quotidien. Alors que ce soir devrait être un beau soir, parce qu'il n'a pas fait une seule fausse note ce matin devant Monsieur Lévitan qui l'a regardé, mais sans sourire, pas comme Colette, Blaise et la marquise. Il ressent une infinie tristesse. Sa sœur lui manque, sa main dans la sienne. Jean serre le morceau de carton que lui a fabriqué Blaise. Ce clavier dessiné, personne ne lui prendra. C'est son seul compagnon dans cette maison.